Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 24 décembre 2015. À la une ce soir. République centrafricaine, les élections du 27 décembre sont reportées à mercredi prochain. Nous aurons les derniers éléments avec l'un de nos correspondants sur place.
Aucun avenir pour la nouvelle rébellion organisée au Burundi. C'est la réaction de la présidence à Bujumbura, alors que ce groupe promet de chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir.
Djibouti, Washington appelle à la remise en liberté des opposants arrêtés cette semaine.
Le Burkina va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré. Quel impact possible sur...
Les relations entre les deux pays sont telles que politiquement, il est difficile de faire semblant comme...
Ici aux États-Unis, les intempéries font au moins 8 morts, notamment dans le sud du pays. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Au report des élections en République centrafricaine, les autorités de transition ont proposé de repousser au 30 décembre les scrutins présidentiels et législatifs prévus dimanche. Sur place, à Bangui, Freeman Sipila.
Alors, le report, comme vous l'avez dit, a été officiellement annoncé ce jeudi en fin d'après-midi. C'était à l'issue d'une réunion regroupant les différentes institutions de la transition, l'Autorité nationale des élections et la communauté internationale au siège de la présidence centrafricaine. Deux raisons majeures justifient donc ce léger glissement selon les termes de l'Autorité nationale des élections. La première est donc logistique. Il faut du temps pour l'acheminement des matériels électoraux dans les différents centres de vote du pays et à l'étranger. La seconde, le renforcement des capacités des agents des bureaux de vote. Parce que lors du référendum, un nombre considérable de bureaux de vote n'aurait pas été pris en compte pour le remplissage des procès-verbaux par ces agents. Et donc ce report vient donc confirmer les rumeurs qui circulent ces dernières 48 heures à Bangui. Cependant, il n'impacte en rien sur la campagne électorale dont la fin est prévue pour vendredi 25 décembre à minuit.
Réaction des autorités de Bujumbura, la formation des forces républicaines du Burundi, le Forebu, dont l'objectif est de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Ce nouveau groupe rebelle, comme ses prédécesseurs, n'a aucun avenir, a fait savoir la présidence burundaise. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
Ce n'est pas le premier mouvement rebelle qui naît au Burundi. Il y en a eu d'autres avant lui qui ont tous été étouffés dans l'œuf, a déclaré à l'AFP Willy Nyamitwe, responsable de la communication présidentielle. Le mouvement existait déjà et avait mené de nombreuses attaques, dont celle du 11 décembre contre des camps militaires, a ajouté Willy Nyamitwe. Selon un bilan officiel, ces attaques ont fait 87 morts, alors que l'ONU parle de quelques 200 civils tués. En annonçant mercredi la mise sur pied du Forebu, le lieutenant-colonel Edouard Chimirimana, ancien officier supérieur de l'armée, a expliqué que la volonté de ce regroupement des principaux groupes armés du Burundi est de chasser par la force Nkurunziza du pouvoir pour restaurer l'accord d'Arusha et la démocratie. Ce développement intervient à quelques jours de négociations sur la crise burundaise qui doivent débuter lundi à Kampala.
Violence dans l'est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées à l'arme blanche. Attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées dans le territoire de Beni. Des détonations ont également été entendues. Les autorités redoutent d'autres morts.
Lutte contre Boko Haram. Le président du Nigeria estime que son pays a techniquement gagné la guerre contre le groupe djihadiste. Dans une interview accordée à la BBC, Muhammadu Buhari a affirmé que les islamistes étaient aujourd'hui incapables d'organiser des attaques conventionnelles dans le nord où ils ont leur bastion. Il a toutefois reconnu que Boko Haram s'était remis à utiliser des engins explosifs artisanaux. Il faut dire que l'ancien général s'était fixé jusqu'à la fin de l'année pour vaincre les djihadistes.
Grève des médias au Niger, la radio et la télévision d'État du Niger sont paralysées depuis mercredi. Quelques 600 agents réclament des augmentations de salaire de 20%, annonce leur syndicat.
Les États-Unis ont demandé au gouvernement de Djibouti de libérer immédiatement les dirigeants de l'opposition, arrêtés cette semaine lors d'une manifestation qui a fait au moins 7 morts et 23 blessés. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Dans un communiqué publié mercredi, le département d'État américain a également condamné les récents actes de violence dans la capitale de Djibouti et incité le gouvernement à respecter le droit de ses citoyens à la liberté d'expression et à la liberté de rassemblement et association pacifique. L'Union pour le Salut National, une coalition de 7 partis d'opposition, conteste le bilan officiel de 7 morts et 23 blessés et parle de 19 civils tués. Pour le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, il s'agit là de violences destinées à déstabiliser le pays, orchestrées, je cite, par des individus mal intentionnés, recevant des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger. Fin de citation. Le département d'État a préconisé la reprise du dialogue entre pouvoir et opposition pour assurer une élection présidentielle transparente et pacifique en avril 2016 à Djibouti. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh devrait briguer un quatrième mandat à cette élection. Djibouti, pays qui occupe une position stratégique, abrite plusieurs bases militaires étrangères, américaines et françaises notamment, utilisées en particulier dans la lutte contre la piraterie maritime. Il fournit aussi un contingent de soldats à la force africaine en Somalie qui combat les islamistes Shebab.
Présidentielle au Libéria, Joseph Nyuma Boakai a été désigné candidat du parti au pouvoir à l'élection de 2017 pour succéder à Mme Ellen Johnson Sirleaf. Vice-président depuis 2005, il est âgé de 71 ans.
Nouvelle attaque contre la police en Égypte dans la péninsule du Sinaï. Un agent a été tué et 2 autres ont été blessés. Une bombe a explosé au passage de leur véhicule, a indiqué le ministère de l'Intérieur égyptien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 8 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées lors de tempêtes et tornades qui ont déferlé hier sur une grande partie des États-Unis. Nicolas Pinault.
Plusieurs habitations ont été endommagées par cette série de tornades destructrices qui ont balayé plusieurs États américains. Tout danger n'est pas écarté puisque d'autres fortes tornades menacent le Tennessee, l'Alabama, le Kentucky ainsi que le Mississippi où de violents orages frappaient la région, a indiqué le Service national de la météo en lançant des dizaines d'alertes. Selon les chaînes de télévision ABC et NBC, la plus jeune des victimes est un petit garçon de 7 ans retrouvé mort dans une voiture renversée par la tempête dans l'État du Mississippi où au moins 40 personnes ont été blessées selon les services d'urgence. Au total, près de 70 millions d'Américains sont menacés par le passage de ces orages et le bilan pourrait s'alourdir. La Géorgie et l'Alabama sont placés ce jeudi sous vigilance par le Service national de la météo.
Au moins 20 civils, dont 7 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des frappes aériennes du gouvernement syrien. Des dizaines de personnes ont également été blessées dans ces raids sur le centre de Amouriyé, une localité de la Ghouta orientale, le plus grand fief rebelle dans la province de Damas, qui est régulièrement bombardée par le régime. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP. 2 civils ont par ailleurs été tués dans des tirs d'obus contre la police de Douma, au nord-est de Damas. En près de 5 ans, la guerre en Syrie a fait plus de 250 000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes.
Enquête sur les attentats de Paris. Les autorités belges ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté et inculpé un 9e homme qui a été en contact avec la cousine de l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre. Abdullah C., né en 1985, de nationalité belge, a été arrêté et inculpé mardi d'assassinat terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste, a précisé le parquet. Il comparaîtra le 7 janvier devant un juge qui devra statuer sur son placement en détention. En France, seules 2 personnes ont été inculpées et écroué jusqu'à présent en lien direct avec les attentats. Malgré les efforts des enquêteurs, plusieurs suspects, dont Salah Abdeslam, restent introuvables.
La capitale française vit cette année une fête de Noël bien différente à celle des années antérieures, justement à cause des attentats terroristes du mois dernier ayant fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. La sécurité est renforcée et la prudence est de mise partout, surtout aux endroits largement fréquentés, tels les grands magasins. Les piétons, indique l'AFP, circulent sous le regard de militaires ouvert et la foule est moins dense que d'habitude à cette période de l'année. Après les attentats, les chiffres de fréquentation en décembre ne seront pas bons, reconnaît-on aux Galeries Lafayette.
En Espagne, le Parti socialiste détient la clé pour la formation d'un prochain gouvernement après les élections législatives, malgré sa défaite. Toutefois, qu'il pactise avec la droite ou avec le parti Podemos, il risque encore de perdre des électeurs, estiment les analystes. Si aucun gouvernement n'était investi, les élections anticipées auraient lieu au printemps.
Et le président russe Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui le premier ministre indien Narendra Modi pour une visite au cours de laquelle la Russie espère faire des progrès dans la vente de son système de défense anti-aérien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le Zimbabwe accroît l'utilisation légale du yuan chinois, a annoncé Patrick Chinamanza, ministre des Finances zimbabwéennes, dans un communiqué. La Chine prévoit d'annuler la dette de 40 millions de dollars du Zimbabwe, qui cherche à accroître ses échanges commerciaux avec Pékin. Rappelons que le dollar zimbabwéen était devenu inutilisable après l'hyperinflation de 2009 avec plus de 500 milliards pour cent. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Zimbabwe. La ministre des Transports ghanéen a démissionné suite à la publication d'un rapport accusant son ministère d'avoir dépensé plus de 3,6 millions de cédis, soit 947 000 dollars, pour peindre plus de 100 bus aux couleurs nationales avec des portraits des quatre derniers présidents du Ghana. Des groupes de l'opposition et des organisation anticorruption avait exprimé leur inquiétude et forcé le gouvernement à mener une enquête. La ministre des Transports, Diffa Ativor, a présenté sa lettre de démission, une décision encouragée par l'administration du président Mahama dans son projet de réduire les dépenses du pays. Selon des protecteurs de la nature et de l'environnement, l'industrie sud-africaine de la chasse au lion fait face à de nouvelles restrictions résultantes de la décision cette semaine du gouvernement américain de protéger les lions africains conformément à la loi sur la protection des espèces en danger. Ces nouvelles restrictions vont décourager les Américains adeptes de la chasse sportive de lions en Afrique du Sud, a dit la Human Society International dans un communiqué. Les chasseurs de trophées de lions payent entre 18 000 et 24 000 dollars pour tuer un mâle de 5 ans. Un mâle âgé de 8 ans avec une impressionnante crinière peut coûter jusqu'à 75 000 dollars, assurent les professionnels de la chasse.
La Minute Éco, merci Arzuma.
En studio avec nous, Eric Manirakiza pour les sports. Alors, salut Eric.
Salut Gabi.
Le sort de Van Gaal, peut-il être sauvé?
Oui, les joueurs ont pris sa défense, Gabi. Nous nous battons pour l'entraîneur, a déclaré aujourd'hui le capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, assurant que lui et ses coéquipiers voulaient sauver la tête de leur entraîneur Louis van Gaal sous pression à l'approche du Boxing Day. La presse britannique Gabi avance que l'entraîneur néerlandais est sur le point d'être licencié après 6 matchs sans victoire et une élimination en Ligue des Champions dès la phase de groupe. Nous avons tous une famille et parfois la famille dit les choses qui ne font pas plaisir, a déploré Rooney avant d'ajouter « Nous sommes des gens fiers et nous sommes fiers de jouer pour Manchester United. » Et hier, Gabi, Louis van Gaal a mis un terme prématuré à la conférence de presse après seulement 3 questions. « Je vous souhaite un joyeux Noël et aussi peut-être une bonne année quand je vous verrai », avait-il lâché dans un état irrité, Gabi. Je te souhaite joyeux Noël.
Et le maître mot ici, c'est peut-être.
Peut-être.
Oui, pour Louis van Gaal. Résultat et classement du championnat nord-américain de basketball NBA après les matchs disputés hier.
Oui, la NBA a encore gâté ses fans pour Noël. Cette année, les affiches hollywoodiennes mettent en scène 3 stars avec un duel très attendu entre LeBron James et Stephen Curry. Tandis que le futur retraité Kobe Bryant défie les Clippers. 6 mois après la finale 2015 remportée par Golden State, Cleveland revient à Oakland pour la première fois. Et les Warriors, sacrés pour la 5e fois de leur histoire en dominant les Cavaliers, 4 victoires à 2, écrasent la saison 2015-2016 depuis le coup d'envoi. Une publicité, Gabi, appelant à mettre fin à la violence armée et dans laquelle figurent plusieurs stars de la NBA, le championnat de basket nord-américain. sera diffusée à la télévision le jour de Noël pendant les matchs de NBA.
Et qu'en est-il du classement justement?
Oui, pour la conférence Est, les deux premiers, c'est Cleveland et Atlanta qui vient en second lieu. Et dans la conférence Ouest, c'est Golden State, Gabi, tu sais, qui a fait des merveilles, et San Antonio en deuxième position.
San Antonio, mon équipe, il faut le dire. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Yeriek et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la République centrafricaine.
Report des élections. Les autorités de la transition ont proposé de repousser au 30 décembre les scrutins présidentiels et législatifs prévus le dimanche 27. Pascaline Mamoko a joint à Bangui Julius Ngwadibaba, porte-parole de l'autorité nationale des élections.
Il y a quelques difficultés techniques encore à régler. Les bulletins de vote en ce qui concerne les législatives qui ont été émis, imprimés à l'extérieur du pays, non seulement ne sont pas arrivés dans le délai prévu, ce qui nous donne quelques difficultés à les déployer et atteindre le dernier bureau de vote avant le dimanche. Second problème technique, c'est qu'il y a quelques erreurs sur quelques-uns de ces bulletins dans certaines circonscriptions. C'est une erreur qu'il faut corriger absolument pour mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Troisième raison, les formations. Parce qu'au premier tour, nous avons eu quelques difficultés par rapport au remplissage des procès-verbaux, des documents électoraux, qui ont rendu difficile le traitement de résultats. Et donc, nous avons pris des mesures correctives. Et ces mesures correctives sont contenues dans les modules de formation. Et nous avons augmenté les durées de formation de sorte que les formations soient mais vraiment parachevées et pour améliorer la qualité du remplissage des documents électoraux à l'issue des scrutins et aussi de faire améliorer le suivi, le tracking de la remontée des procès-verbaux des bureaux de vote à l'intérieur vers le centre de traitement de données de l'autorité nationale à Bangui. Et encore, il y a une raison assez fondamentale, c'est que le tribunal administratif a pris des décisions réhabilitant de certains candidats que l'autorité nationale des élections avait invalidés. Or, le code électoral fait obligation à l'autorité nationale des élections de mettre en application toute décision de justice qui serait prise dans le cadre de la gestion du contentieux des candidatures.
Ceci dit, les dossiers en litige seront réglés d'ici là?
C'est l'une des raisons du décalage, donc évidemment, ces dossiers seront traités.
Mais en ce qui concerne la date de clôture de la campagne, est-elle aussi repoussée?
Que des mesures subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. Le code électoral dit que la campagne dure 14 jours et la campagne prend fin 24 heures avant le jour du scrutin. Donc, vous voyez, ce sont ces deux dispositions qu'il faut combiner pour prendre une décision. Nous sommes en concertation en ce moment même avec les organes judiciaires pour pouvoir arrêter une position commune et d'ici avant la fin de la campagne, une décision sera prise pour soit proroger la campagne ou non.
Julius Ngwadibaba, porte-parole de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
République démocratique du Congo, le tribunal militaire de Bukavu a rendu son verdict à l'issue du procès d'un militaire accusé d'avoir tué un civil à Kavumu. De Bukavu, le compte-rendu d'Ernest Mouhero.
C'est avec un soulagement bien lisible sur le visage que les habitants des Kavumu au sud Kivu ont accueilli le verdict du tribunal militaire garnison de Bukavu, siégeant en procédure de flagrance le 21 et 22 décembre 2015 dans l'affaire d'un soldat des FARDC reconnu coupable d'assassinat et condamné à la peine capitale. C'était pour avoir tué à bout portant un civil taximotard de son état en date du 20 décembre à Kavumu Centre, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Pour Christian Wanduma, coordonnateur de Bukavu Force Vive pour la Paix, une organisation de lutte contre la criminalité, cette condamnation est un signal fort pour les porteurs d'armes qui agissent en toute impunité en RDC.
Une leçon à l'égard de tout le militaire, de tous les policiers qui peuvent se méconduire au détriment de leur règlement. Et ça donne encore du courage à la population d'espérer ou de croire à la justice congolaise qui est en train de se rattraper du jour au jour.
Le verdict est tombé le 22 décembre dans une audience publique bordée de monde et présidée par le capitaine magistrat Bienvenu Mwanansele. Justin Binegourou, soldat de 2e classe, écope de la peine capitale avec 15 millions de francs congolais de dommages intérêts à la famille de sa victime Rafiki Mwigirwa, dont il a ôté la vie à la suite d'une dispute familiale. Selon la partie civile, c'est pour avoir refusé de se rendre à la patrouille au moment de la dispute que ce soldat a ouvert le feu. Mais dans sa défense, le soldat Justin explique qu'il a tiré parce que la victime voulait lui arracher l'arme à feu. Mais pour Patrice Lwabaguma, acteur de la société civile au Sud Kivu, la justice militaire devrait aussi regarder de très près les cas des militaires issus d'anciens groupes armés.
On ne doit pas seulement se limiter à ces niveaux. Il y a eu toute une prolifération de groupes armés au niveau de la République. Et qu'à un moment donné, on a passé à un processus de réintégration. En réintégrant, la personne réintègre cette fois-ci les forces loyalistes. Ces crimes ont été inhibés et on laisse la personne sur qu'il est librement. Mais quel sera maintenant le comportement de celui qui a été victime vis-à-vis de cette personne? Vous marchez ensemble, et pourtant hier, c'est lui qui a violé ta mère. Et pourtant hier, c'est celui qui a assassiné ton papa. Et donc, l'ensemble de tous ces cas doivent être suivis, traités et punis de manière à réduire l'impunité au niveau de la République démocratique du Congo.
L'auditeur militaire garnison de Bukavu, le major Jérôme Bayawa, qui a porté l'affaire devant les tribunaux militaires, invite les porteurs d'armes à éviter tout acte contraire au règlement militaire, faute de quoi la justice sera derrière eux. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le Burkina va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré, visé par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. La justice militaire accuse le tombeur du père de la révolution burkinabé d'attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Cette action judiciaire est perçue comme un test pour les relations futures entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Eric Manirakiza a joint à Ouagadougou l'analyste politique Albert Ouedraogo.
À ma connaissance, il n'existe pas une tradition d'extradition politique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, chaque fois que des hommes politiques ont eu du mal avec les autorités de leur pays, ces hommes ont toujours eu l'asile dans l'un ou l'autre des deux pays sans qu'à un moment donné, il y ait eu une extradition. Donc, je crois que ça va être difficile pour le président Alassane Ouattara d'extrader le président Compaoré. Tout au plus, ce qui lui sera possible, c'est peut-être de demander à son hôte de changer de pays, que ce qui lui éviterait justement de devoir faire face à cette difficulté, je dirais, géopolitique.
Justement, en termes de conséquences géopolitiques, qu'est-ce qui générait notamment la Côte d'Ivoire?
Il y a des questions de gratitude. N'oubliez pas qu'au temps fort de la crise ivoirienne, le président Compaoré a été quand même d'un grand secours. Les rebelles entre griffes qui avaient maille à partir avec le régime du président Gbagbo, si bien que quelque part, sans cette base arrière et ce soutien politique, stratégique et militaire, il était difficile à la rébellion de tenir aussi longtemps. Donc aujourd'hui, voir que ces mêmes autorités sont au pouvoir, surtout la frange de la rébellion, en relation avec le RDR, il est difficile humainement de dire que nous allons payer en monnaie de singe l'action bénéfique qui avait été menée en son temps.
Il doit donc lui renvoyer l'ascenseur.
Ben oui, c'est une question à savoir quand vous donnez, quand vous accordez l'asile. C'est-à-dire que au-delà même des aspects géopolitiques, c'est même des questions humaines.
Mais l'absence d'un accord d'extradition entre les deux pays, ça peut, disons, couvrir la Côte d'Ivoire. C'est un argument juridique très fort.
Oui, c'est un argument juridique très fort, mais il est que les relations entre les deux pays sont telles que politiquement, il est difficile de faire semblant comme si cette demande d'extradition n'avait point existé pour les nouvelles autorités. Donc, quand je regarde un peu, je tourne la question dans tous les sens, la posture actuelle n'est pas tenable pour les autorités de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas tenable pour beaucoup de raisons.
Le professeur Albert Ouédraogo, joint à Ouagadougou.
Quel bilan de l'année 2015 en Afrique? Des changements survenus au Burkina Faso, aux attaques de Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, en passant par la controverse du troisième mandat au Burundi, au Rwanda, en RDC et au Congo-Brazzaville. Retrouvez-nous ce vendredi 25 décembre à partir de 17h30 temps universel sur VOA Afrique. John Lyndon, je serai à la présentation.
Cap sur le Cameroun. Les fêtes de fin d'année se préparent activement, mais cette fois-ci, les enfants vont devoir se passer de leurs jouets en forme de fusils et autres pistolets. Les autorités, estimant que ce type de jouets prépare les enfants à la violence, viennent d'en interdire l'importation, la vente et l'usage. Une décision qui fait débat. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Le petit Kennedy Afuba, âgé de 9 ans, manœuvre un fusil en jouet au bois Sainte-Anastasie de Yaoundé.
As you can see, I'm using my Kalashnikov gun to shoot and kill enemies.
Kennedy dit qu'il tue les ennemis qui s'opposent à lui.
I'll kill all of them.
Ce ne sont pas des balles réelles qui sortent de son jouet, mais des boules de caoutchouc. C'est précisément ce type de jeu que l'État camerounais combat ces derniers temps. Une initiative saluée par les Camerounais dans leur majorité.
Je peux préférer les jouets comme les accordéons pour les filles, les poupées, les camions pour les garçons. Mais je défends l'achat des fusils parce que les enfants ont été très rebelles à cause de ces jouets-là. Ça les rend rebelles.
Moi, je refuse d'acheter des trucs comme les fusils, les pistolets pour qu'ils ne soient pas bruts. Acheter des trucs comme ça, ça rend violent.
Seulement cette prise de position contre les fusils en jeu n'est pas partagée par tous.
Ce ne sont que des jouets, donc je ne trouve pas d'inconvénient à ça. J'achète tout type de jouets. Ça peut être un véhicule ou alors ce n'est pas un véhicule, c'est un fusil. Pourquoi pas un fusil? Déjà, naturellement, ils voient des films où il y a de l'armée, ils rencontrent des policiers un peu partout qui utilisent des fusils, des vrais fusils.
Les sociologues apprécient l'initiative de l'État camerounais et suggèrent d'ailleurs la mise en place d'une législation en la matière, comme le témoin Annie Dorian, sociologue.
Premièrement, le jouet doit être conforme aux normes de sécurité, car il y a des jeux dangereux. Deuxièmement, il faudrait que le jouet soit éthique. Il ne faudrait pas acheter des jouets aux enfants à caractère sexiste ou tribaliste, je dirais même violent. Ici, il faudrait tenir compte de l'aspect éthique de la chose. Le choix du jouet devrait se faire en fonction de l'objectif que nous visons. Tout d'abord, le jouet doit respecter les normes de sécurité.
Pour le gouvernement camerounais, ces outils sont nuisibles à plus d'un titre. Ils enseignent la violence aux enfants. Les hors-la-loi s'en servent aussi pour perpétrer des attaques dans les domiciles. Les autorités de Yaoundé pensent aussi que les malfaiteurs se servent des cartons de ces jouets pour dissimuler les vraies armes à feu, une pratique condamnée par la loi. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui a assuré la mise en onde. Bonne fête de fin d'année, Lionel. Et bonne fête aussi à Dan Crafton qui était à la console. Présentation chez Roubaix d'Orcil et Morgane Guiriac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. En attendant, je vous souhaite joyeux Noël.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.